êtes sur CFM Cahors, bienvenue à vous tous, c'est l'heure de votre mag. Aujourd'hui on parle livres avec notamment un éditeur du coin, d'ailleurs entre parenthèses, puisque la maison d'édition Edicos est située à Arc-en-Bal, hein, donc autant dire à quelques mètres du studio, à vol d'oiseau, on va dire ça comme ça, quelques centaines de mètres, allez. Et on va parler notamment de l'abbé Jean Gauzin, avec ce livre 69 années de sacerdoce au service de tous. Pourquoi parler de cet abbé? Qu'est-ce qu'il a fait de si exceptionnel pour avoir un livre? Eh bien, on en discute maintenant, pendant une demi-heure, avec son auteur, Gilles Chevriot. C'est le Mac du Lot. Gilles Chevriot, bonjour.
Bonjour Yannick.
Bon, pour ceux qui ne connaissent pas encore Edicos, quelques mots sur cette maison d'édition.
Oui, alors effectivement, située à quelques encablures du studio, allez, on va dire 15 km pile du pont de Cabessu.
Oh, mais à vol d'oiseau, on est tellement proche.
Et Edicos a été d'abord une activité dite liée à la communication, donc c'est au sens large du terme. Bien sûr, avec l'arrivée d'Internet, c'est incontournable, il faut aussi se consacrer aux nouvelles technologies et communiquer rapidement, échanger par le web. Et puis aussi, l'édition est arrivée tout simplement parce que la vie est faite de rencontres. On rencontre des auteurs, on rencontre des éditeurs, on apprend un nouveau métier, ce qui est bien. On peut apprendre à tout âge.
Ben oui.
Et donc, certaines personnes vous font confiance et puis vous mettent le pied à l'étrier. Et c'est comme ça qu'un jour, on découvre que l'on rencontre des personnes qui souhaitent maintenant vous faire confiance et vous proposer un manuscrit, une idée. Et on devient, on va dire, pseudo-éditeur.
Alors attention, hein, une particularité quand même, ce n'est pas n'importe quels ouvrages que vous éditez. Ils ont une spécificité.
Oui, alors ils traitent obligatoirement du Quercy, personnages, événements, thématiques, localisation. Pourquoi faire au-delà d'un territoire que l'on connaît bien, que l'on aime bien, et donc auquel on veut être un acteur efficace, pour lequel on veut être un acteur efficace. Donc j'ai décidé de me consacrer uniquement à des œuvres ayant trait au Quercy.
C'est des romans aussi ou des documents seulement?
Non, pas de romans, c'est plutôt...
Des beaux livres, comme on dit.
Assez, pas forcément non plus du beau livre. C'est, alors le problème du beau livre, c'est que bien sûr il a un coût, parce que y a rentre le principe de la fabrication, et un beau livre, on a besoin de le voir, qu'il donne envie. Quand on le prend, il y a un toucher, donc forcément il y a un soin particulier qui est consacré à sa fabrication. Souvent on en fait peu d'exemplaires, donc ça renchérit le coût. Donc moi, je reste dans un format relativement standard pour le rendre accessible au plus grand nombre. Parce que c'est ça, finalement, le livre ne doit pas rester dans les cartons, ni chez l'éditeur, ni chez le détaillant, libraire, maison de la presse, mais il doit être entre les mains des lecteurs et lectrices.
Évidemment. Et du coup, là, aujourd'hui, vous êtes venu nous parler de ce livre que vous avez vous-même écrit sur l'abbé Gilles Chevriot. Ça s'appelle « 69 années de sacerdoce au service de tous ».
C'est l'abbé Jean Gauzin, pas Gilles Chevriot.
Jean Gauzin, pardon.
Oui, Gilles Chevriot, il n'est que laïque.
J'avais les deux mots en tête, j'étais en train de lire deux choses en même temps, pardon.
Voilà.
Non, ça c'est pas mal, pardon. Excuse-moi, l'abbé Jean Gauzin, c'est parce que j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce qu'il a fait de si particulier pour mériter un livre, cet abbé? Alors d'abord, qui resituer le personnage? Qui était-il?
Alors, voilà, moi c'est quelqu'un que j'ai rencontré dans mon village dans les années 80. Il accompagnait, lors d'un concert à l'église Saint-Antoine d'Arc-en-Bal, il accompagnait son évêque. C'était Monseigneur Guédon, que les paroissiens et les Lotois, dont le nom fleure bon aux oreilles de certains Lotois. Et voilà, c'est la première fois que je le rencontrais. Il était assis au premier rang, parce que Monseigneur Guédon était un personnage imprégné de grande musique, mélomane, pianiste. Et comme vicaire général, c'est-à-dire bras droit de l'évêque, il accompagnait son évêque au concert. Mais nous n'avons pas eu d'échanger de paroles. J'étais simplement à proximité. Limité assis, et ça s'est arrêté là. Et bien sûr, les choses n'en restent pas toujours là. Il y a d'autres rencontres qui se font, et en 2013, plutôt en 2009 déjà, j'ai consacré une partie de mon temps avec un ami du village, un artiste, Christian Verdun, dont le nom aussi sonne aussi aux oreilles des Lotois, parce qu'il est aussi connu dans sa discipline de plasticien, ancien professeur d'art plastique. Nous avons coécrit tous les deux un livre consacré à notre église. Voilà. Et dans l'iconographie, il y a des photos où l'abbé Gauzin est présent avec certains de ses confrères, avec des évêques avec lesquels il a cheminé, et ça a été la deuxième prise de contact avec cet évêque, avec ce prêtre Monseigneur Gauzin. Pareil, hasard de la vie, nous invitons à cette occasion l'évêque en place, Monseigneur Turini, qui vient à l'invitation des organisateurs et le lancement de ce livre, et nous sommes restés en contact. Voilà, tout simplement, on a gardé un contact parce qu'il avait trouvé que l'idée était intéressante. Et un jour, sachant que j'étais dans la communication, un jour, Monseigneur Turini m'appelle à la maison et me dit « Voilà, je cherche quelqu'un pour prendre le service communication en charge du diocèse parce que l'abbé qui s'en occupait part pour une autre mission et il nous faut trouver un successeur. » Et c'est comme ça que pendant 3 ans, j'ai assuré à raison de 3 jours par semaine le service communication du diocèse. Et bien entendu, les visites avec l'abbé Gauzin ont été plus fréquentes.
Mais qu'est-ce qui vous a plu chez cet homme ? Est-ce que était-il un simple prêtre normal en
oui,
fait ?
Oui, c'était...
Mais alors pourquoi un livre, un simple prêtre ?
C'était un prêtre normal. Alors, qu'est-ce qui m'a séduit dans ce personnage ? Alors tout d'abord, il faut dire que d'une manière générale, il y a très peu de livres consacrés à des prêtres.
On est d'accord.
C'est vrai d'une manière générale, je pense, sur l'ensemble de l'Hexagone. Le Lot n'y échappe pas.
Parce qu'ils sont plus discrets aussi.
Ils sont plus discrets, voilà. Je pense qu'ils ne souhaitent pas se mettre en avant. Ils sont simplement distingués, reconnus, parce qu'ils ont une spécificité propre. Ils ont peut-être une activité connexe à leur sacerdoce, leur activité sacerdotale. Et en ce qui concerne l'abbé Gauzin, moi, ce qui m'a séduit, c'est sa disponibilité. C'était quelqu'un qui était disponible à chaque fois qu'on l'appelait. Pour quelques circonstances que ce soit, il répondait toujours présent. C'était un personnage aimable, parce que dans toutes les composantes dans la société...
Ça vous étonne.
Oui, ça m'étonne, parce qu'aujourd'hui, le bonjour, merci, au revoir, la poignée de main, c'est des choses qui commencent un peu à se déliter. Et moi, ces relations avec ce prêtre, lorsqu'il venait rendre visite à son évêque ou à d'autres personnes à Cahors, systématiquement, il allait à la rencontre des personnes dans les services, pour leur dire bonjour, pour un mot gentil. Quand on lui envoyait un document à sa demande, il répondait toujours par une petite carte, un petit coup de téléphone. « J'ai bien reçu le document, merci, c'est sympa. » Voilà, et ça, c'est des choses naturelles qui, moi, m'ont vraiment touché. Et j'ai senti aussi, en discutant sur ce personnage avec d'autres membres pratiquants ou non du diocèse de Cahors, qu'il avait cette réputation. Et j'ai voulu lui rendre hommage parce que cette disponibilité, cette gentillesse, cette politesse m'apparaissait la chose la plus importante. Et au fil, après, de nos rencontres, parce qu'il y a eu des rencontres, on a parlé de ce projet de biographie ensemble, et j'ai découvert son parcours qui a été tellement riche que ça me paraissait important de vraiment de réunir cette gentillesse, cette disponibilité, cette richesse de parcours pour en faire une biographie.
C'est un pur lotois.
Ah oui, tout à fait.
Donc, parce que si j'ai compris, il a passé sa carrière dans le Lot, en fait.
Il est né, alors, en août 1924 à Saint-Céré, d'une famille de parents très profondément investi dans le monde de l'Église, à une époque où effectivement le monde religieux avait une place dans toutes les familles. Ouais. On va dire qu'aucune pratiquement n'échappait aux bonnes relations avec les abbés dans les villages, qui étaient installés pour certains pendant de longues années. Il y avait le presbytère qui fonctionnait, les familles se mettaient à disposition pour accueillir les enfants. C'était une période où les enfants étaient encadrés dans les camps de vacances, les colonies, les spectacles qui avaient lieu dans les villages. Toute la population, et je le dis dans cet ouvrage, était mise à contribution et participait. Les responsables religieux avaient le temps d'aller de multiples reprises sur le terrain pour rencontrer les paroissiens, pour les grands moments d'église. Et tout ça, ce sont des choses qui, effectivement, figurent dans cette biographie et qui, aujourd'hui, malheureusement, ne sont plus d'actualité.
Vous trouvez qu'on a perdu un peu d'humanité, même dans l'église actuelle,
hein? Disons que... les choses,
la chaleur peut-être, sans parler d'humanité.
Oui, la chaleur, c'est-à-dire que pour moi, la rencontre dans l'église, c'est déjà pour une célébration ordinaire, une messe dominicale. Pour moi, c'est le curé à l'entrée de l'église qui accueille les paroissiens, qui leur serre la main, qui leur dit bonjour. C'est pas, il faut pas attendre que toute les travées d'église soient remplies de fidèles et pour que venir. Le prêtre sorte de la sacristie. Non, pour moi, il faut qu'il y ait un accueil.
Bon, je sens qu'il y a un message là dans ce que vous dites.
Sans doute. Et puis après, un petit mot gentil, mais je le sais aussi. Des fois, il y a des prêtres qui font deux messes dans la matinée. Alors, il faut aller vite. Et malheureusement, cette vitesse est au détriment de la chaleur et c'est un peu dommage. Et puis, bien sûr, il y a la raréfaction des prêtres. Hein, oui. En 86. Il y a une photo dans cet ouvrage où on voit 88 prêtres. Aujourd'hui, on est loin du compte.
On est loin du compte. Gilles Chevriot, vous restez encore avec nous. On revient dans quelques instants dans ce Mag du Lot. On parle de votre livre, l'abbé Jean Gauzin, 69 années de sacerdoce au service de tous. On va essayer de s'arrêter quelques instants sur son parcours et surtout comment il était considéré ici. Est-ce que c'était quelqu'un qui était vraiment apprécié? Vous saurez tout dans quelques instants. FM Cahors, c'est le magazine du Lot. Nous sommes en train de parler livres, notamment de l'abbé Jean Gauzin, avec ce livre justement publié aux éditions Ethicos et de Gilles Chevriot qui est avec nous. Vous nous avez expliqué dans la première partie, Gilles, pourquoi cet homme vous fascinait tant. Parce que est-ce qu'on peut dire que c'était de la fascination, j'ai l'impression.
C'est pas de la fascination, c'est une approche tellement humble, tellement fine, imprégnée d'un humanisme fort que effectivement, pour moi, d'ailleurs je le dis, à un moment j'ai dit l'abbé, les familles le considéraient comme un membre de la famille. Pour moi, c'était presque ça.
Il était humble.
Ah oui, très 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 très, et à la fois pragmatique.
Et comment vous avez fait pour retrouver tous ces documents, retracer son autobiographie? C'est au fur avec de vos mémoires, au fur et à mesure que vous avez fait connaissance avec lui?
Alors, on a enregistré, effectivement, j'ai fait quelques enregistrements avec lui. Malheureusement, très tardivement, sur la fin de sa vie, il a eu un accident de santé et qui a contraint les responsables de l'église diocésaine à le placer dans un établissement spécialisé. Et il l'a perdu... parce qu'on lui a retiré sa voiture. Il était dans un EHPAD, très bien entouré, très bien soigné, mais malheureusement, c'était un homme très autonome, et à partir du moment où on lui a pris ses clés de voiture, ça a été une catastrophe pour lui. Il s'est senti, rejeté de la société. D'accord. Voilà. Alors, effectivement, on en a parlé, il m'avait donné son accord pour cette biographie, et au-delà des quelques enregistrements que nous avons faits ensemble, il a fallu que je me débrouille et que je collecte des témoignages, que je rencontre les membres de sa famille, même si les membres étaient très éloignés de Cahors, parce qu'il n'avait ses parents, c'était le fils unique, et il n'y avait pas d'autres membres, les autres membres de la famille Gauzin étaient des membres c'était des petits cousins qui avaient quitté le Lot, donc c'était un petit peu compliqué. Bien sûr, je me suis aidé des écrits depuis les années 30, puisqu'il est rentré au petit séminaire en 1936. À partir de cette période, j'ai consulté tout ce que je pouvais au niveau des archives diocésaines, ce qu'on appelait la revue religieuse, qui témoignait de manière hebdomadaire de toute la vie de l'Église et qui m'a permis, effectivement, d'avoir un éclairage, très précis sur les déroulements, sur sa vie. J'ai bien sûr rencontré des paroissiens, j'ai rencontré des prêtres.
Ça a été facile d'avoir la confiance de toutes ces personnes.
Oui, oui, parce que voilà, encore une fois, lorsque le personnage est très apprécié, les gens ont plaisir à parler de lui, des relations qu'ils ont pu avoir. J'ai collecté des photos aussi.
Oui, il y en a quelques-unes, voilà, effectivement, quelques qui remontent à loin.
Il y a en gros 50 photos. On le voit, non pas en barboteuse, mais en jeune communiant.
Même à l'école, là, je vois
voilà.
la photo.
C'est un prêtre qui a été tout de suite investi de la prise en compte de la jeunesse. Même avant, d'ailleurs, son ordination en tant que prêtre, il a encadré des camps de vacances. Et les photos que l'on voit dans cet ouvrage, notamment, il y a un camp de vacances qui encadrait des jeunes Saint-Céréens à Marseille, à Notre-Dame-de-la-Garde, en 1947, sachant qu'il n'a été ordonné qu'en 1948. Mmh. Voilà. Donc, et il s'est occupé tout de suite des mouvements de jeunesse, et les évêques qui se sont succédés depuis son ordination, c'est-à-dire depuis 1948, ont compris très vite que c'était un auxiliaire indispensable pour justement éduquer la jeunesse, pour leur faire toucher du doigt les premiers rudiments de la chrétienté, de la vie chrétienne, finalement, d'une manière générale, avec l'arrivée des revues pour enfants, des livres, puisqu'à l'époque, c'était cette découverte. Il y avait les parents, mais les parents n'avaient pas toujours la capacité d'enseigner aux enfants. Mmh. Donc, c'était les prêtres et puis les publications de l'époque qui étaient là pour leur faire découvrir ces rudiments. Et puis après, c'était l'éducation de la jeunesse dans les camps de vacances. Les enfants partaient en colonie pendant un mois, en juillet, en août, encadrés par des prêtres. C'était aussi l'époque de la création des mouvements d'église, c'est-à-dire que il y avait la première étape, c'était pour l'enfance, et puis après c'était pour l'adolescence et pour le monde ouvrier permettait d'avoir une éducation depuis les premiers pas d'enfants jusqu'à ce que l'adulte soit indépendant, qu'il puisse se rentrer dans une activité professionnelle, se marier.
Mais pas que, parce que là, on a compris qu'il était vraiment très engagé dans la jeunesse.
Oui.
Mais en même temps, il a quand même fait 46 ans aumônier à la maison d'arrêt de Cahors.
Oui, alors c'est une autre grande étape de sa vie. Alors il a effectivement la jeunesse, aumônier de la maison d'arrêt de Cahors, parce que c'était quelqu'un qui était aussi attaché à soutenir les plus démunis.
Il était servi là.
Il n'hésitait pas d'ailleurs le soir, puisqu'il était hébergé à proximité de son évêque à l'évêché de Cahors, au cours de la Chartreuse. Il n'hésitait pas le soir après le dîner d'aller faire ce qu'on appelle aujourd'hui les maraudes et d'aller à la rencontre des plus démunis et à leur apporter des vêtements, un secours, répondre finalement à la détresse. Et pendant 46 ans, il a été d'abord aumônier adjoint, puis aumônier en charge de la maison d'arrêt de Cahors jusqu'en 2012, date de sa fermeture. Ça, c'était un intermédiaire important à la fois pour les associations qui se consacraient aux personnes détenues, Secours catholique, Emmaüs et les autres organismes d'accueil et de soutien. Et puis, le monde religieux, c'était finalement l'interlocuteur entre l'évêque, qui est le patron du département, et puis les autorités effectivement gérer la population des personnes incarcérées. Et puis les mouvements qui étaient là pour assurer le quotidien, accueillir les familles pour les parloirs, aider les personnes lors de leur libération pour leur retrouver un logement, pour les écouter, voilà, participer aux célébrations puisqu'il y a il y a une chapelle à la maison d'arrêt. Donc voilà, on va aussi peut-être aller aux périphéries. Il y a effectivement les personnes détenues, mais il y a aussi les gens du voyage pour lesquels il a été un auxiliaire très précieux. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer des responsables qui, à cette époque, aidaient les gens à, on va dire, à, non pas à se sédentariser, mais tout du moins vivre dans des conditions beaucoup plus décentes que ce qui était par le passé, avec non plus des roulottes, mais des choses quand même beaucoup plus, on va dire, d'hygiène plus présente, permettre aux enfants de se développer avec des soins, etc., etc. Il a été aussi, il s'est occupé des gens du voyage, il s'est occupé du monde des forains aussi. Oui. Voilà. Et puis, en travers de ces missions de soutien à la jeunesse, aux personnes défavorisées, il a été le collaborateur principal de l'évêque et a été donc promu vicaire général pendant 25 ans, c'est-à-dire c'était le bras droit de l'évêque, c'était lui qui gérait le temporel, sachant que l'évêque est là pour gérer le spirituel. Mmh. Voilà, c'est une sorte de cheminement à deux pour gérer finalement le quotidien des diocésains, de l'Église, de son organisation, de son accueil. Ces trois éléments ajoutés témoigne de la disponibilité de l'homme. Ça, c'est important.
Vous, Gilles Chevriot, qui l'avait connu sur la fin de sa vie, hein, je pense que vous étiez là auprès de lui pour fignoler un petit peu aussi où il vous raconte ses histoires, parce que j'imagine que vous aviez encore des questions concernant sa vie que vous ne connaissiez pas forcément.
Oui, je n'ai pas tout appris de sa bouche.
Vous n'avez pas tout, évidemment. Oui. Quel était son rapport avec la société actuelle? Est-ce qu'il était confiant en l'avenir?
Ah oui, il a toujours été... Il a toujours été très positif. Je ne l'ai jamais entendu se plaindre. Jamais. Dans quelques cas que ce
même
soit.
Même dans la maladie, du coup.
Ah oui, au contraire, il était toujours confiant et il faisait toujours confiance à ses interlocuteurs. Il était toujours positif. Il pensait, à chaque fois qu'un problème lui était posé, il pensait qu'il trouverait la solution. Ça, c'était systématique. Alors, bien sûr... À partir du moment où il a perdu cette autonomie, il s'est senti un peu, entre guillemets, largué.
Comme tout le monde,
voilà.
Oui, on le serait tous, évidemment.
Voilà, et il nous l'a même écrit, il l'a écrit à sa famille, j'ai eu accès à des correspondances, il se sentait un petit peu, voilà, devenait plus efficace, autant efficace que ce qu'il pouvait l'être quand il était autonome, parce qu'effectivement, quand quelqu'un se le sollicitait, il sautait dans sa voiture et il allait à la rencontre, quoi. Voilà, il a vraiment été vraiment, vraiment disponible pour tout le monde. Et la preuve, c'est qu'à l'âge de 75 ans, un prêtre est tenu de donner sa démission pour raison d'âge et respecter le droit canonique. Il a demandé à son évêque encore de servir et il est parti. Et sa dernière mission a été d'être l'aumônier du Carmel de Figeac, qu'il a quand même assuré pendant 16 ans. Donc, et il est décédé, il avait 94 ans.
Un homme passionnant à découvrir, peut-être même à vous, qui, si jamais vous l'avez connu, ce qui est fort possible, hein, vu le nombre d'années où il est resté dans le diocèse. L'abbé Jean Gauzin, 69 années de sacerdoce au service de tous. Un livre illustré de quelques photos hein, tirées de sa collection personnelle, j'imagine.
Pas que. Non, alors en réalité, il y a très peu de photos, sauf peut-être celle où il est avec le pape qui l'a élevé à la dignité de prélat de sa sainteté. Je crois que c'est la seule photo qu'il avait encadrée dans sa chambre à la maison de santé de Gramma où il se trouvait. Toutes les autres sont des photos qui m'ont été confiées par des amis de la famille ou des photos de presse. Voilà.
Un livre à découvrir aux éditions Edicos, le site internet edicos.fr et en vente où ici à Cahors?
Écoutez, à Cahors, on le trouve à la maison de la presse, on le trouve à la librairie Calligramme, on le trouve à l'espace culturel Leclerc et on le trouve également à la maison de la presse de l'abbé Roddy. Et puis bien sûr dans les principales maisons de presse et libraires du département.
Merci beaucoup Gilles Chevriot.
Avec plaisir.
C'est la fin de ce magazine, on se retrouve bien évidemment demain. La rediffusion c'est à 17h. En attendant, passez une belle journée à l'écoute des programmes de CFM Cahors.